c'est presque un habitué, parce que l'an dernier, quasiment à cette heure-ci, avec une collègue qui parlait fromage, eh ben, on recevait, j'ai oublié votre prénom.
Voilà,
Jérémy. Jérémy, voilà, c'est ça, absolument, qui nous arrive du Béarn.
Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors Jérémy, effectivement, on va rappeler que vous êtes du domaine Laroudé et que vous faites donc des, vous avez des, vous êtes vigneron.
Oui, voilà, exactement. Ouais.
Et justement, bon, l'occasion, on va peut-être rappeler vos produits et voir un petit peu quelles sont les nouveautés. Donc déjà, bienvenue sur cette édition 2024 des Gastronomades.
Merci. On va peut-être commencer par la base. Vous êtes situé où dans le Béarn?
On est à 35 km à l'ouest de Pau, entre Pau et Bayonne.
Dans une petite commune, une grande commune.
Voilà, c'est une petite commune qui s'appelle Luc de Béarn. Donc il y a des coteaux, c'est au flanc, enfin un flanc de coteaux sur au pied des Pyrénées, quoi, en gros.
Voilà, ça c'est juste pour nous faire rêver, Jérémy. On a envie d'y être.
Et les origines de l'exploitation, justement, elles viennent d'où, rappelez-nous.
Donc moi, je suis la cinquième génération sur le domaine. Donc c'est une exploitation familiale. Il y a toujours eu un peu de polyculture, d'élevage, de viticulture. Et moi, je me suis installé sur le domaine il y a une dizaine d'années, essentiellement sur l'appellation Jurançon.
D'accord. Et donc vous avez choisi la viticulture, vous êtes mis dedans à fond.
Oui, voilà. Ouais, c'est une passion. J'ai commencé par aimer le vin. C'est un beau produit qui nous fait rêver. Donc j'ai commencé par aimer le vin. Puis j'en ai fait un petit peu partout, un petit peu dans la Loire, un petit peu à Bordeaux, un petit peu en Australie. Mmh. Et je me suis rendu compte du potentiel du terroir béarnais. Donc je suis revenu sur l'exploitation familiale pour faire du Jurançon.
Mais enrichi quand même de tous vos voyages, notamment dans du vin australien.
Ouais, voilà. Ouais. Hein, l'Australie. Est intéressante notamment parce qu'elle fait partie de l'hémisphère sud, donc les vendanges ne sont pas en même temps que les nôtres, elles sont décalées de 6 mois.
D'accord.
Et du coup, ça me permettait de travailler un petit peu sur mon domaine pendant les vendanges de mon domaine et ensuite de faire 6 mois dans l'hémisphère sud et en même temps d'apprendre la langue anglaise qui est essentielle pour le commerce international.
Voilà.
Et au final, bon, je vends tout en direct, donc j'ai pas besoin de vendre à l'étranger, ça me va très bien comme ça, parce que j'ai perdu tout mon anglais. En épousant une femme espagnole, j'ai perdu mon anglais pour me mettre à l'espagnol, et donc voilà.
Mais c'est vrai, voilà, on le rappelle.
Mais c'était une belle expérience.
Le vin, on l'aime, on le produit principalement en France.
Oui.
On l'aime en France, on l'aime également à l'étranger, donc voilà, on peut exporter si on le souhaite, mais on peut déjà, voilà, faire vivre son exploitation rien qu'en vendant en local ou en national au moins.
Oui, exactement. Oui. Les vins français sont très réputés. J'en ai pris conscience en partant à l'étranger. Pour eux, les vins français, c'est les meilleurs du monde. Et on a un gros potentiel de vente en France parce que la France est quand même un beau pays de consommateurs. On aime bien le bon vin. Mm-hmm. Mais ce sont des vins qui ont un certain prestige et qui s'exportent bien. Les étrangers recherchent énormément les vins français aussi à l'export. Oui.
Justement, oui, cette culture du vin, je crois qu'elle est. Enfin, après, bon, peut-être que vous allez pouvoir beaucoup mieux me renseigner que ce que je ne crois l'être, mais autant les productions ont tendance à être standardisées à l'étranger, autant en France, on a vraiment cette culture du millésime, de telle année, et c'est ça que les étrangers recherchent ?
Exactement, il n'y a pas que le millésime, il y a aussi le terroir.
Oui.
C'est vrai qu'à l'étranger, on parle énormément du cépage, et quelle que soit la région dans laquelle il a été produit, on met en avant le cépage, et pour moi, le vin, c'est avant tout un terroir. C'est pas uniquement un cépage, et le terroir, c'est l'endroit où il a été produit, avec un certain sol, avec un certain climat, avec de certaines personnalités. Et c'est un tout qui fait la force des vins français pour moi. Et il y a une grosse diversité en France. À 10 km, on peut avoir des vignes très différentes, des vins très différents. Mmh. Et ça, c'est ce qui fait la force des vins français pour moi.
Et donc, parlons-en de ces produits, le Jurançon. Les vins, on sait que vous avez des produits phares, peut-être quelques nouveautés, on va pouvoir aborder tout ça.
J'ai pas vraiment de nouveautés cette année, mais voilà, je produis du Jurançon, essentiellement du Jurançon. J'ai 2 Jurançons secs et 3 Jurançons moelleux. Mm-hmm. Donc le Jurançon est très connu pour les moelleux, mais depuis quelques années, les secs sont en forte progression également. Et à côté de ça, moi j'ai produit du vin, enfin j'ai vinifié du vin un peu partout, je vinifie aussi du rouge et ça me manquait de plus en faire, donc j'ai planté quelques cépages de rouge pour faire aussi un petit peu de vin rouge.
D'accord, donc à l'essai cette année, ouais, déjà disponible ?
Oui, voilà, oui, il est déjà disponible. Moi, ça fait quelques années qu'il est planté, donc c'est la 7e année que j'en fais et c'est toujours aussi plaisant d'en faire.
Toujours un travail de longue haleine, effectivement, de cultiver la vigne, chaque année de la soigner jusqu'à ce qu'elle puisse devenir productive et rentable.
Oui, voilà, exactement. Il y a 12 mois de travail à la vigne avant d'obtenir les premiers raisins, et après il y a 12 mois au chai pour obtenir les premiers vins. Donc il faut au moins 2 ans de travail, un an à la vigne, un an au chai pour avoir les vins que l'on souhaite.
Toujours un pari sur l'avenir. Et oui. La récolte 2024, comment ça s'est passé, Nicolas ?
Ça a été une bonne année, oui, très très bonne année. C'était une année humide, donc on avait peur que les maladies s'attaquent à nos vignes.
Oui.
Mais l'année dernière avait été très humide aussi, et les vignes ont finalement acquis des résistances l'année dernière. Et cette année, elles se sont pas fait du tout attaquer par le mildiou. Elles ont bien résisté. Elles ont été très résistantes. On est très satisfaits. Et la période de récolte a été bonne aussi. Le vin est pour l'instant en pleine fermentation, donc c'est difficile de dire le potentiel final, mais ça c'est prometteur.
A priori, c'est plutôt bon. Donc au final, ouais, cette alternance entre jours de pluie et grosse chaleur, le raisin le supporte bien.
Ouais, voilà, il a bien supporté. Donc nous, en Jurançon, on a des cépages aussi qui sont habitués à la pluviométrie qu'on peut avoir. Mmh. On a le gros mancin et le petit mancin essentiellement, qui sont des cépages avec une pellicule épaisse. Et cette pellicule épaisse leur permet de résister à toutes les conditions climatiques. Et du coup, cette année nous a bien plu.
Donc on revient sur les gastronomades. Revenons au moment présent. Donc vous êtes pour la combienième fois sur les gastronomades ? C'est votre
combien ? Je crois que c'est la 10e année. Donc c'est toujours aussi plaisant. On passe toujours des bons moments. Mm-hmm. On vient avec plaisir. Il y a une belle fidélité des Charentais. On est très contents. Et puis ça nous permet de venir goûter la gastronomie charentaise aussi.
Bien sûr.
On prend plaisir à venir tous les soirs dans un restaurant d'Angoulême. C'est une belle ville. On est très contents. On est en groupe de producteurs du sud-ouest avec du piment, des châtaignes, du canard, des gâteaux basques. Et ce petit groupe-là, on se retrouve tous les soirs à boire quelques coups dans des caves d'Angoulême, à aller manger dans des bons restaurants d'Angoulême. Et on vient peut-être tout autant pour le plaisir de ces soirées d'Angoulême que pour vendre quelques bouteilles.
Bon, Pascal Seb, je sais quel est le groupe qu'il faut suivre ce vendredi soir.
Ouais, oui.
Notre éclaireur.
Moi Jérémy, je souhaiterais que vous nous parliez de votre produit pour les auditeurs qui nous entendent. Votre Jurançon sec, par exemple, on peut l'associer à quel plat ou à un moment particulier, peut-être du repas, l'apéritif, le dessert. Expliquez-nous un petit peu.
Oui, voilà, exactement. On a deux secs différents. Donc le premier sec, le sec Loucep Océan, qui est vinifié avec du gros mancin. C'est un sec qu'on vend beaucoup dans les restaurants de la côte basque. On a quelques grands restaurants sur la côte basque. Ils le préconisent plutôt avec les plateaux de fruits de mer, notamment les poissons grillés. Des choses assez simples. C'est un sec qui est aromatique au nez en entrée de bouche et qui a une belle vivacité. Donc ça se marie très bien avec les entrées, les plateaux de fruits de mer, des choses comme ça. Et ensuite, on a un deuxième sec vinifié en barrique. Donc là, il est un peu plus sur la tenue en bouche, sur la longueur. Et ça, c'est des secs qui ont des secs de bouche, on appelle ça. C'est des secs qui vont bien avec les plats, avec les viandes blanches, avec les poissons cuisinés. Et voilà, ça se marie très bien avec les plats.
Et alors, enfin, donc le dernier, donc le moelleux.
Et ensuite les moelleux, on a 3 moelleux différents. On a un premier moelleux qui est doux sans être trop sucré. Donc c'est un passe-partout, ça se voit bien l'été, notamment à l'apéritif, c'est agréable, c'est aromatique, c'est doux. C'est assez frais en finale, donc ça se boit assez facilement en toutes circonstances. Ensuite, on a un moelleux 100% petit mancin qui est un peu plus concentré, qui a un peu plus de longueur en bouche et qui garde une belle fraîcheur en finale. C'est notamment le plus commun pour les foie gras. C'est un moelleux assez haut de gamme qui a de la tenue en bouche, mais qui se marie également très très bien avec les foie gras. Et on le boit très facilement à l'apéritif aussi en toutes circonstances. Et ensuite, on a un vendange tardif. Alors là, c'est des vins d'exception, c'est des vins beaucoup plus haut de gamme, mais qui sont plus difficiles à associer avec des plats parce qu'ils ont énormément de tenue en bouche, énormément de longueur, énormément d'arômes. Et c'est des vins qui se suffisent à eux-mêmes. Donc on peut le prendre avec quelques toasts, mais c'est souvent des vins qu'on boit seul, des vins plaisir, pas forcément au moment du repas, c'est juste des vins plaisir.
Et le vin, le Jurançon, du coup, on peut le garder combien de temps ? C'est un vin qu'on peut garder ou pas ?
Oui, pas le premier sec. Le premier sec, c'est un vin de consommation rapide qu'il faut boire dans les 2 ans. Et après, les autres vins, que ce soit le deuxième sec ou les 3 autres moelleux, sont vinifiés en barrique. Et la vinification en barrique les met au contact de l'oxygène. La barrique, c'est du chêne français qui a des tout petits trous qui laissent respirer le vin. Et cette respiration du vin, ça l'aide à être habitué à l'oxygène et du coup à bien vieillir dans le temps. Donc les vins peuvent vieillir jusqu'à 10 ans, 15 ans. Maintenant, on met de moins en moins de sulfite dans les vins, on en met très très peu. Et les vins se conserveront probablement moins longtemps, on a moins de recul, mais depuis qu'on en met moins, on ose moins dire 20 ans. Mes parents disaient plutôt 20, 25 ans, moi je préfère dire 10, 15 ans.
Donc les sulfites, on peut rappeler ce que c'est des agents conservateurs ?
Oui, voilà, oui, c'est le SO2, c'est un espèce d'agent conservateur qui est naturel, mais qu'on peut ajouter au raisin et au vin, surtout au vin final, pour l'aider à se conserver, pour l'aider à éviter des déviations microbiennes ou des déviations d'oxydation notamment. Ça l'aide à se conserver exactement.
Et quelques mots peut-être sur votre vin rouge. Vous avez dit que ça vous manquait, donc vous avez décidé d'en vinifier un petit peu. Quelques mots.
Oui, voilà, oui. J'ai planté quelques variétés, des variétés particulières. J'ai planté du tanate, qui est un cépage du coin, notamment du Madiran. C'est un cépage assez tannique. Donc nous, dans le sud-ouest, on aime bien les rouges assez puissants, assez tanniques. Et j'ai planté après un autre cépage. On est conservatoire d'un cépage qui s'appelle le Mancin Noir. C'est un cépage qui avait quasiment disparu, et avec le réchauffement climatique, on est obligé de s'adapter en plantant d'autres cépages. Le réchauffement climatique, ça implique qu'on a de plus en plus d'alcool dans nos vins. C'est vrai dans la plupart des vins français. Et on est obligé de replanter des vieux cépages qui avaient été arrachés autrefois parce qu'ils faisaient pas assez d'alcool. Il y a 20 ans ou 25 ans en arrière, les viticulteurs étaient payés au degré d'alcool, donc ils ont sélectionné les cépages qui faisaient le plus d'alcool. Et maintenant, on revient un petit peu en arrière, on a des cépages qui ont trop d'alcool. Donc on essaye de replanter les vieux cépages qui avaient été oubliés autrefois parce qu'ils faisaient pas assez d'alcool. Et le Mancin Noir fait partie de ces cépages, il monte à des degrés comme 12, 12,5, c'est beaucoup plus digeste et beaucoup plus facile à boire.
Voilà, ce qui reste quand même dans les standards tout en s'adaptant avec des nouvelles, enfin des anciennes variétés qui heureusement ont été conservées quand même.
Exactement, oui, on a la chance dans le Béarn, c'était un des coins où il y avait le plus de diversité de cépages, on avait une centaine de cépages différents. Et on a un passionné d'empélographie, un passionné de cépages qui les a sélectionnés, qui les a conservés, il en a pris 5 pieds de chaque, il les a replantés, il les a conservés depuis une cinquantaine d'années.
D'accord.
Et on a la chance d'avoir ce conservatoire qui nous permet d'en replanter. Et
merci à lui. Vos produits, on peut les goûter sur votre stand, le stand numéro 107.
Voilà, exactement, vous pouvez venir, on est là pour vous faire déguster, donc vous venez quand vous voulez, avec plaisir.
On peut partir avec la bouteille, le coffre entier.
Exactement, tout est possible.
Tout est possible, ça marche.
Est-ce qu'il y a des relations, des contacts avec des restaurateurs ici de notre région pour pourquoi pas proposer votre vin sur les tables de Charente ou des départements limitrophes?
J'ai une difficulté, c'est que je manque de vin. Et du coup, j'ai beaucoup de restaurateurs qui me contactent, mais j'ai pas assez de vin pour leur fournir. Je privilégie la clientèle particulière. Et ouais, j'ai pas assez de volume pour vendre au restaurant. Je vends chez un caviste là, le petit baigneur qui est
pas loin
d'ici. Oui, voilà, exactement. Mais j'ai pas assez de vin pour vendre à d'autres professionnels. Désolé pour eux.
Voilà, mais non, mais on comprend bien. On reste évidemment à votre dimension, donc c'est bien logique.
Et puis messieurs, je voudrais, avant qu'on oublie, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez rencontrer Jérémy, il organise des portes ouvertes.
Oui, je fais également des portes ouvertes qui ont lieu le week-end prochain. Bon, c'est un petit peu loin d'Angoulême, il faut faire quelques heures de route, mais c'est des portes ouvertes, donc on est 40 vignerons à ouvrir nos portes ce jour-là, donc vous pouvez faire plusieurs vignerons sur ce week-end-là, et vous allez dans un domaine, puis dans l'autre, vous déguster tous ces vins, et puis il y a plusieurs animations, des repas qui sont prévus dans les domaines. Donc voilà, vous pouvez avoir toutes les informations sur notre site du domaine La Roudet si vous voulez.
Parfait, c'est la route des vins en Béarn.
Exactement.
Bien, à profiter. Et ben voilà, une belle expédition, pourquoi pas pour ceux qui n'ont rien de prévu la semaine prochaine. Hop, on visite évidemment votre territoire et puis on vient déguster de bons nectars.
Merci.
On rappelle donc le domaine La Roudet, stand 107 sur les gastronomades. Merci beaucoup, Jérémy.
Merci beaucoup.
Merci, Jérémy.